jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, onde femme Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Je vous rappelle notre adresse, onde femme sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Eh bien, dans, au programme ce soir, dans quelques instants, nos nouvelles, suivies de Canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, et puis le Memento. En attendant, musique. Pleine Lune, 3.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. Le comité d'urgence pour les droits de résidence des Palestiniens et la Fédération palestinienne des comités d'action de femmes lancent un appel pour alerter la population mondiale sur le problème des séparations des familles et des déportations dans les territoires, depuis les territoires occupés par Israël, déportations et séparations qui s'accélèrent. Au cours de l'année écoulée, des centaines, voire des milliers de familles ont été séparées de force par la déportation des maris, des femmes ou des enfants. Les permis de visite, lorsqu'ils existent, donnent lieu à de nouvelles difficultés. Ils nécessitent maintenant le dépôt d'une garantie d'une somme équivalente à 3500 francs suisses pour s'assurer que le ou la bénéficiaire quitte bien les territoires à l'échéance de son permis. Un accord en juin 1990 avait permis d'obtenir auprès de la Haute Cour d'Israël pour les jeunes épouses de résidents des territoires et leurs enfants une sorte de statut de sécurité, mais ce statut a vite été remis en cause, particulièrement ce qui concerne les femmes qui se sont mariées et sont entrées dans les territoires après cette date de l'accord, juin 1990. Le renouvellement de leur permis de visite leur a été refusé. Des centaines de jeunes femmes ont été déportées et plus de 150 autres sont retenues à la maison par ordre de la Haute Cour de sécurité. Mais la sécurité des femmes mariées et résidentes, préalablement à l'accord de juin 90, est également très minée. Bien que ces femmes soient autorisées à demeurer chez elles sans interruption, au moyen de permis de 6 mois renouvelables automatiquement, beaucoup d'entre elles sont forcées de quitter les territoires sous toute une série de prétextes. Pour celles qui peuvent revenir, leur nouveau permis de visite est soumis à la garantie des 3500 francs. Les enfants sont également assez touchés. Depuis que l'ordre militaire 1208 a été édicté en septembre 87, des milliers d'enfants par année sont nés apatrides dans les territoires occupés. Bien qu'étant théoriquement protégés par l'accord de juin 1990, il y a eu au moins un cas où une fillette de 4 ans a été déportée. D'autres enfants ont été menacés. Ces deux associations lancent cet appel et demandent donc qu'un arrêt immédiat de tous ces départs forcés entre en vigueur dans les territoires occupés, que l'interprétation de l'accord de la Haute Cour de juin 90 inclut toutes les épouses de résidents, quelle que soit la date de leur mariage, de la restauration d'une politique de visite ouverte sans cette caution terriblement contraignante de 3500 francs, ainsi que l'abrogation de leur ordre militaire pour les enfants résidents. Dernière revendication, le retour immédiat de toutes les épouses et enfants déportés administrativement ou forcés de quitter les territoires. « Élection aux Philippines, il semble que ce soit Fidel Ramos, le poulain de Cory Aquino, qui ait gagné les élections. Le candidat à la présidence, soutenu donc par Cory Aquino, devance Madame Santiago, que nous annoncions victorieuse la semaine dernière. Celle-ci dénonce cependant une fraude massive. Des troupes ont dû prendre position devant la mairie de certaines villes pour repousser des manifestants qui accusaient le comité de surveillance des élections d'incompétence. Des incidents se multiplient à travers le pays. Des bureaux de vote ont été saccagés, de nombreuses urnes ont été détruites. L'armée est intervenue dans plusieurs provinces. En 3 jours, 14 personnes ont été tuées. Canulars en Inde. Des milliers d'Indiens venus de contrées reculées se pressent à New Delhi dans les quartiers où se trouve l'ambassade d'Irak. Ces pèlerins rêvent de faire un beau mariage en Irak. Des petits malins leur ont vendu des formulaires précisant que celui qui épouse une des nombreuses veuves de guerre irakiennes touchera 3000 dinars. Plus un prêt de 4000 dinars. À l'origine de ce canular, une information parue dans un journal irakien distribué en Jordanie, reprise ensuite par différentes agences de presse, repercutée en Inde par des escrocs qui vendent donc ces formulaires de candidature. Les fonctionnaires égards de l'ambassade d'Irak s'arrachent les cheveux car les Indiens ne veulent pas croire qu'il s'agit d'une mauvaise farce. Pour les dissuader, l'ambassadeur pense avoir trouvé une astuce. Je demande au candidat, êtes-vous marié? S'il me dit non, je réponds, désolé, nous avons besoin de gens marié. Et s'il dit en avoir une femme, je lui dis, est-ce que vous êtes d'accord d'épouser 4 épouses d'un coup ? En Grande-Bretagne, la parlementaire travailliste Betty Botroy, de 62 ans, ancienne danseuse d'une troupe dans les années 60, a été élue speaker, c'est-à-dire présidente plutôt, de la Chambre des communes. Un véritable événement car c'est la première fois en 700 ans qu'une femme est nommée à ce poste. C'est aussi la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un député, plutôt qu'une députée travailliste, y accède. Betty Botroy dirigera les débats, souvent houleux, auxquels participent 651 députés, dont 9% de femmes. Une chose est décidée, elle ne portera pas la perruque blanche qui va de pair avec cette fonction. En France, une campagne pour la pilule a du mal à passer. La campagne contraception était prête et elle est reportée sous des pressions morales, estime le planning familial. Est-ce un signe explicite de retour à l'ordre moral ? On peut se le demander. En tout cas, tout était prévu pour cette campagne, des crédits débloqués, les autorisations reçues. La campagne contraception à destination des jeunes devait commencer le 12 mai. Il y avait plusieurs axes à cette campagne, entre autres des spots à la télévision où on pouvait lire « La contraception, c'est pour ne penser qu'à l'amour », ainsi qu'une série de brochures informatives. Et d'un coup, c'est l'arrêt. Tout est annulé. La veille du lancement, on nous a prévenu que la campagne était remise en cause. Reportée, sine die, explique Catherine Gros, une des responsables du planning familial. Pour des raisons budgétaires et techniques, nous a-t-on expliqué ce qui est manifestement faux. Pour le planning familial, comme pour la CFDT, il ne fait aucun doute que le gouvernement cède aux pressions morales. Cela vient du cabinet du Premier ministre. Fin de citation. En Suisse, on a voté ce week-end. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé des thèmes de ces votations. L'adhésion au FMI a été acceptée par 54% des voix. Et entre autres, le nouveau article constitutionnel sur le génétique a été largement accepté. Ce nouvel article qui définit les limites données au génie génétique et à la procréation assistée a été accepté partout en Suisse, sauf en Valais. Le nouvel article doit protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et les autres organismes vivants contre les abus du génie génétique et de la procréation assistée. Il interdit notamment la vente d'embryons et les manipulations génétiques sur des embryons, le recours à des mères porteuses et l'emploi d'embryons surnuméraires dans la fécondation in vitro. L'article fixe aussi les conditions auxquelles un couple peut faire appel à la procréation assistée. Il s'agit bien sûr de couples hétérosexuels mariés, si possible. Autre sujet de votation, la révision du code pénal en matière sexuelle a également passé la rampe. Les amours juvéniles ne seront plus punissables en Suisse, mais le viol de l'épouse, lui, sera désormais punissable, sur plainte uniquement. Ce projet a été très largement accepté en Suisse, sauf en Valais, bien entendu. La loi révisée maintient l'âge limite de protection de la jeunesse à 16 ans, mais elle autorise les amours juvéniles, pour autant que la différence entre les partenaires ne dépasse pas 3 ans. La révision permet aussi de punir le viol entre époux, ce qui est une nouveauté puisqu'elle était étrangère au code de 1942. Elle punit la pornographie dite dure, mais est relativement laxiste pour la pornographie dite soft. En outre, les relations hétérosexuelles et homosexuelles seront désormais traitées sur pied d'égalité. C'est, je crois, cet aspect-là qui a dû déplaire aux Valaisans. Toujours en Suisse, le bureau de l'égalité à Berne publie un guide pour concrétiser l'égalité des salaires. Cette initiative de l'administration fédérale entend assurer la transition jusqu'à l'adoption de la loi. Cette loi fédérale sur l'égalité qui doit permettre en principe de concrétiser le principe de l'égalité des salaires se fait toujours attendre. Le bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes veut assumer la transition. Il publie aujourd'hui des directives concernant l'application du droit à l'égalité des salaires, de même qu'un rapport d'experts sur l'évaluation du travail et la discrimination salariale des femmes qui doit servir ces deux brochures doivent servir d'instrument de travail pour les juges et les autorités. Ces directives du Bureau de l'égalité, donc publiées sous forme d'une brochure, sont un véritable guide qui rappelle l'existence du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, donne un bref descriptif des méthodes d'évaluation du travail et signale les possibilités juridiques de faire appliquer ce droit. Dans une seconde partie, la brochure formule une série de recommandations à l'intention des entreprises, des administrations et des syndicats, ainsi que des associations de personnel, de même que surtout pour les femmes, dont le principe fondamental repose sur la transparence et le dialogue. À Genève, l'association F Information fête ses 10 ans, éprouve vraiment la nécessité de son existence et de ce travail incroyable d'information. Le printemps dernier, donc, le centre F Information fêtait ses 10 ans d'existence. Le bilan de ses activités pour l'année 1991 montre que de nombreuses femmes, de plus en plus nombreuses même, font appel à ce centre. Pour donner pour indication, en 10 ans, on est passé de 200 demandes à plus de 3500 demandes par an. Le centre organise encore toute une série de groupes dans lesquels les femmes apprennent aussi bien à écrire qu'à réfléchir, qu'à mieux se préparer à l'avenir, et entre autres des groupes pour recommencer une carrière ou reprendre du travail pour les femmes qui ont interrompu leur vie professionnelle. Enfin, rappelons que F Information a aussi une activité plus politique. On se souvient notamment de son enquête « Femmes pauvres dans villes riches » qui traitait des difficultés financières de ces femmes, de son intervention lors du débat et de l'intervention de F Information dans les différents débats sur la promotion des enseignantes à l'université ainsi que de sa participation à la grève des femmes du 14 juin 1991. Est-ce que Superphénix va-t-il mourir ? Malville est-elle bientôt agonisante à la poubelle ? On l'espère. En tout cas, hier a eu lieu à Paris une grande audition publique sur l'éventualité du redémarrage de Superphénix et l'avenir des réacteurs à neutrons rapides. C'était une grande première. C'est la première fois où en France on fait appel à ce genre d'événement public où étaient entendus à la fois les ministres, les parties prenantes pro-nucléaire, ainsi que pour la première fois des organisations écologistes, même les organisations suisses comme le WWF ou Contratome. En tout cas, des différentes auditions, il est ressorti que l'on prévoit sans doute de transformer Superphénix en incinérateur de plutonium. En soi, c'est déjà un nouvel aveu d'échec de la part des autorités nucléaires. De premier élément d'une filière industrielle, le surgénérateur a successivement régressé dans la terminologie officielle, puisqu'il est devenu tour à tour prototype pré-industriel, puis simple prototype de recherche et maintenant un incinérateur, pour ne pas dire une poubelle ou une décharge. Un point marqué qui ne doit pas dissimuler le fait que derrière cette régression se cache en fait une lutte acharnée des milieux nucléocrates pour sauver à tout prix leur bébé. Comme le fait remarquer Pierre Vanek, président de Contratome, qui témoignait donc à cette audition, les responsables de ces organismes nucléaires ont à des multiples reprises demandé une autorisation de redémarrage en l'état actuel de la centrale, avec à la clé l'argument pour le moins spécieux que petit à petit on transformerait Superphénix en incinérateur de plutonium. Techniquement, cette transformation est un non-sens et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, la chose est techniquement très difficilement réalisable, si ce n'est dangereuse. D'autre part, le Superphénix ne pourrait ainsi brûler au mieux que 200 ou 300 kg de plutonium par année, soit environ la quantité produite par la centrale de Bezenau. Il faudrait donc, dans cette hypothèse, construire une poubelle derrière chaque centrale pour le problème des déchets. Polémique autour des obsèques de l'actrice Marlène Dietrich. Marlène Dietrich qui a été inhumée samedi à Berlin dans l'intimité, mais son retour posthume dans son pays natal a été marqué par une polémique sur son rejet de l'Allemagne nazie. Rappelons que Marlène Dietrich avait quitté l'Allemagne dans les années 30 en dénonçant le nazisme. Elle a chanté pour les soldats américains pendant la Seconde Guerre, ce qui lui a valu l'hostilité d'une partie des Allemands. Un service religieux télévisé a été ainsi annulé la semaine dernière et le projet de louer un avion pour faire venir les stars qui participent au Festival de Cannes a également été abandonné. La foule a accueilli le maire de Berlin, M. Diepgen, sous les huées à son arrivée au cimetière. C'est ce maire, chrétien démocrate de Berlin, qui est accusé d'avoir empêché l'hommage à l'actrice pour faire plaisir aux électeurs d'extrême droite et qui ont obtenu des scores élevés aux dernières élections régionales en Allemagne. Lors de sa dernière visite dans son pays natal, il y a 32 ans, Marlène Dietrich avait été accueillie par des pancartes l'accusant de trahison. La même insulte a été utilisée ces derniers jours dans le courrier des lecteurs des journaux. Sa tombe a été souillée avant même les obsèques et la police craignait une profanation de la tombe par des néo-nazis. Marlène Dietrich avait choisi d'être enterrée à Berlin seulement après la chute du mur. Toujours dans le cadre du cinéma, un hommage à la cinéaste suisse Jacqueline Veuve qui, au terme de 25 années de pratique cinématographique, compte aujourd'hui 46 films dans le domaine du documentaire, de l'ethnographie et de la sociologie. Elle a reçu le Grand Prix de la création décerné par le canton de Vaud. Grâce à son activité, beaucoup de métiers artisanaux, traditions paysannes et données culturelles de notre région ont été sauvés de l'oubli. C'est en 1966 qu'elle réalise son premier court-métrage et en 1978, avec la mort du grand-père, elle est connue d'un large public en Suisse romande. Elle crée à Lausanne sa propre société de production. En 1990, la chronique paysanne en Gruyère confirme ce succès en obtenant le grand prix du Festival du film documentaire de Chicago et le prix du meilleur film roman à Soleure. Toujours du côté du cinéma, le Festival de Cannes vient de se terminer, mais aussi aucun film de femme n'a été primé. Cependant, plusieurs films ont été montrés. On a pu y voir, entre autres, un film de l'allemande Elma Sanders-Bram qui s'intitule Les fruits du paradis et qui parle de la transformation d'un couple vivant à l'Est, en ex-Allemagne de l'Est, qui s'aime, qui s'épouse, et puis leur relation se transforme dans cette atmosphère de l'Allemagne ex de l'Est et puis comment elle va de nouveau se transformer avec cette fameuse réunification. Avec cette grande cruauté froide à l'égard de ses compatriotes qui la caractérise, Elma Sanders-Bram revient têtue comme une mule sur les vieux démons de son nouveau pays. Autre film de femme, une néo-zélandaise, Alison MacLean. La Nouvelle-Zélande vraiment doit être ouvrir ses studios de cinéma aux femmes, puisque on connaît les films de Jane Campion que nous avons vus et beaucoup aimés. Et bien voilà une nouvelle néo-zélandaise sur les écrans. Enfin, en tout cas pas à Genève, on ne sait pas si elle va arriver. Elle a réalisé un film Crush. Alors, ce qui est intéressant de son film, c'est que le thème, c'est l'histoire de trois femmes, qu'il est donc réalisé par elle-même, que le scénario a été écrit par une femme, Anne Kennedy, et qu'il est produit par une femme, Brigitte Ikin. Beaucoup de femmes, donc, dans et autour de ce film. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, c'était les nouvelles. Dans quelques instants, des rendez-vous, canicule, encore des rendez-vous, waouh. En tout cas, je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 5040-51-41-023 depuis la Suisse. Et comme il pleut et que vous êtes à la maison en train d'écouter la radio, que vous êtes peut-être même enfermé. Est-ce que vous êtes enfermé dans votre voiture, dans un embouteillage? Parce que comme tout le monde, comme il pleut, tout le monde prend sa voiture. Alors vous êtes dans votre voiture et vous nous écoutez. Ça va bien? Non, c'est pas vrai. Vous êtes sur votre vélo et vous avez votre Walkman sur les oreilles. Vous êtes mouillé, mais ça va vite. Non, vous êtes chez vous, en train de siroter un café, une liqueur, ou peut-être même une Williamine, mangeant des chocolats, des olives, fumant.
Et quoi d'autre?
Et quoi d'autre? À très bientôt. Bien, alors continuons avec quelques rendez-vous. Premier rendez-vous, un montage audiovisuel sur le problème du Chili. Papa, maman, un jour vous serez libre. C'est un film qui est réalisé avec et par des prisonniers politiques. Et en deuxième partie, on discutera du problème. Donc c'est une soirée sur le thème de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut oublier, est-ce qu'on peut passer l'éponge. Donc ce film sera suivi d'une discussion sur les violations des droits de l'homme pendant plus de 16 ans. Et qui soulève donc ce problème de l'impunité. C'est organisé par le Comité pour la liberté des prisonniers politiques au Chili, chilien, et ça se passe le jeudi 21 mai à 20h à la maison de quartier des Acacias, 17 route des Acacias, 1227 Genève. Donc je vous rappelle sur la problématique des prisonniers, un montage audiovisuel, Papa, Maman, un jour vous serez libre, suivi de DAC, on oublie tout, une discussion sur le thème de l'impunité. Autre rendez-vous du jeudi 28 mai, c'est un peu... Alors, je suis en avance, mais ça fait rien, il faut mettre ça dans votre agenda, sinon vous n'aurez pas le temps. C'est Rina Nissim qui vous invite à une présentation des progrès de Chaudigny. Chodini, c'est une recherche-action sur les médecines alternatives et la santé des femmes en Inde qui a été conduite de 1989 à 1992 avec une expérience très indienne, si on peut dire, de l'approche self-help. Ce sera l'occasion de voir un film, Something Like a War. C'est un film réalisé par Deepa Dhanrat, un documentaire qui dure environ une heure sur le programme de planning familial en Inde. Ça se passera donc le jeudi 28 mai au Centre des loisirs des Astères, à la rue Chaube, à 20h. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter ? Eh bien, j'aimerais vous parler d'un livre. Charlotte Olivier, est-ce que vous connaissez ? Tu connais Charlotte Olivier ?
Non, je ne connais pas Charlotte, mais tu vas me dire.
Alors, Charlotte Olivier, c'est une femme qui a mené au siècle dernier une lutte incroyable contre la tuberculose dans le canton de Vaud. Et c'est un livre qui est écrit par Geneviève Heller. Geneviève Heller, sociologue et historienne, qui a écrit un magnifique livre que vous avez peut-être lu, Propre en ordre, qui était consacré à l'émergence de la propreté moderne en Suisse, surtout au travers de l'étude du logement et de la vie domestique. Eh bien, dans ce livre qui raconte la lutte contre la tuberculose au début du siècle, c'est un livre étonnant, émouvant, avec quelques pistes qui peuvent nous donner quelques idées par rapport au sida. Charlotte Olivier, qui était donc, n'était pas une femme à se laisser marcher sur les pieds, issue de 3 générations de médecins, elle a poursuivi un but unique, enrayer l'épidémie de tuberculose qui, en 1910, tuait 2 Vaudois par jour. Aux côtés de son mari médecin, et tuberculeux. Elle a dirigé un dispensaire antituberculeux à Lausanne et elle s'est activée dans différentes associations et ligues. Elle a formé des véritables nuées de monitrices d'hygiène et d'autres messagères de la santé qui traquent les bacilles dans les taudis vaudois. Croisade titanesque, un peu dérisoire, on ne soigne pas mais on inculque les principes d'hygiène. Cet univers contraignant et désespéré reprend vie dans cette étude de Geneviève Heller. Donc c'est paru aux éditions d'en bas. Mon demain est en chérie.